Méditation poétique d'Alphonse de Lamartine, édition de 1860. 17e méditation. La naissance du duc de Bordeaux. Ode. Versez du sang, frappez encore. Plus vous retranchez ces rameaux, plus le tronc sacré voit éclore ces rejetons toujours nouveaux. Est-ce un dieu qui trompe le crime ? Toujours d'une auguste victime, le sang est fertile en vengeur. Toujours échappé d'Athali, quelque enfant que le fer oublie grandit à l'ombre du Seigneur. Il est né, l'enfant du miracle, héritier du sang d'un martyr. Il est né d'un tardif oracle. Il est né d'un dernier soupir. Aux accents du bronze qui tonne, la France s'éveille et s'étonne du fruit que la mort a porté. Jeu du sort, merveille divine, ainsi fleurit sur des ruines un lys que l'orage a planté. Il vient quand les peuples, victimes du sommeil de leurs conducteurs, errent au penchant des abîmes, comme des troupeaux sans pasteur. Entre un passé qui s'évapore, vers un avenir qu'il ignore, l'homme nage dans un chaos. Le doute égare sa boussole, le monde attend une parole, la terre a besoin d'un héros. Courage, c'est ainsi qu'ils naissent, c'est ainsi que dans sa bonté un Dieu les sème. Ils apparaissent sur des jours de stérilité. Ainsi, dans une sainte attente, quand des pasteurs, la troupe errante, parlaient d'un Moïse nouveau, de la nuit déchirant le voile, une mystérieuse étoile les conduisit vers un berceau. Sacré berceau, frêle espérance, qu'une mère tient dans ses bras, déjà tu rassures la France. Les miracles ne trompent pas. Confiante dans son délire, à ce berceau déjà ma lyre ouvre un avenir triomphant. Et, comme ces rois de l'aurore, un instinct que mon âme ignore me fait adorer un enfant. Comme l'orphelin de Pergame, il verra près de son berceau un roi, des princes, une femme, pleurer aussi sur un tombeau. Bercé sur le sein de sa mère, s'il vient à demander son père, il verra se baisser les yeux. Et cette veuve inconsolée, en lui cachant le mausolée, du doigt lui montrera les cieux. Jeté sur le déclin des âges, il verra l'empire sans fin, sorti de glorieux orages, frémir encore de son déclin. Mais son glaive au champ de victoire nous rappellera la mémoire des destins promis à Clovis. Tant que le tronçon d'une épée, d'un rayon de gloire frappé, brillerait aux mains de ses fils. Sourd aux leçons efféminées, dont le siècle aime à les nourrir, il saura que les destinées font roi pour régner ou mourir. Que des vieux héros de sa race, le premier titre fut l'audace, et le premier trône un pavois. Et qu'en vain l'humanité crie, le sang versé pour la patrie est toujours la pourpre des rois. Tremblant à la voix de l'histoire, ce juge vivant des humains, français, il saura que la gloire tient deux flambeaux entre ses mains. L'un, d'une sanglante lumière, sillonne l'horrible carrière des peuples par le crime heureux. Semblable aux torches des furies que jadis les fameux impies sur leurs pas traînaient après eux. L'autre, du sombre oubli des âges, tombeau des peuples et des rois, ne sauve que les siècles sages et les légitimes exploits, ses clartés immenses et pures, traversant les races futures, vont s'unir au jour éternel. Pareil à ces feux pacifiques, ô Vesta, que des mains pudiques entretenaient sur ton autel. Il saura qu'aux jours où nous sommes, pour vieillir au trône des rois, il faut montrer aux yeux des hommes ses vertus auprès de ses droits. Qu'assis à ce degré suprême, il faut s'y défendre soi-même, comme les dieux sur leurs autels, rappeler en tout leur image et faire adorer le nuage qui les sépare des mortels. Au pied du trône séculaire, où s'assied un autre Nestor, de la tempête populaire, le flot calmé murmure encore. Ce juste que le ciel contemple lui montrera par son exemple comment, sur les écueils jetés, on élève sur le rivage, avec les débris du naufrage, un temple à l'immortalité. Ainsi s'expliquaient sur ma lyre les destins présents à mes yeux, et tout secondait mon délire, et sur la terre et dans les cieux. Le doux regard de l'espérance éclairait le deuil de la France. Comme, après une longue nuit, sortant d'un berceau de ténèbres, l'aube efface les pas funèbres de l'ombre obscure qui s'enfuit. Commentaire de la 17e méditation. J'étais de famille royaliste. J'avais servi dans les gardes du roi. J'avais accompagné à cheval le duc de Berry, père du duc de Bordeaux, jusqu'à la frontière de France, quand il en sortit pour un second exil. L'assassinat de ce prince, quelques années après, m'avait profondément remué. Le désespoir de sa jeune veuve, qui portait dans son sein le gage de son amour, avait attendri toute l'Europe. La naissance de cet enfant parut une vengeance du ciel contre l'assassin, une bénédiction miraculeuse du sang des Bourbons. J'étais loin de la France quand j'appris cet événement. Il inspira ma jeune imagination autant que mon cœur. J'écrivis sous cette inspiration. Ces vers, je ne les envoyais point à la cour de France, qui ne me connaissait pas. Je les adressais à mon père et à ma mère, qui se réjouirent de voir leurs propres sentiments chantés par leur fils. J'ai été, comme la France entière de cette époque, mauvais prophète des destinées de cet enfant. Je n'ai jamais rougi des vœux très désintéressés que je fis alors sur ce berceau. Je ne les ai jamais démentis par un acte ingrat ou par une parole dédaigneuse sur le sort de ces princes. Quand les Bourbons que je servais ont été proscrits du trône et du pays en 1830, j'ai donné ma démission au nouveau souverain pour n'avoir point à maudire ce que j'avais béni. Depuis, cette seconde branche de la monarchie a été retranchée elle-même. J'ai été plus respectueux envers leur infortune que je ne l'avais été envers leur puissance. Quand le trône s'est définitivement écroulé sous la main libre du peuple, je ne devais rien à celui qui l'avait occupé le dernier. J'ai pu prêter loyalement ma main à ce peuple pour inaugurer la République. 18 ans d'indépendance absolue me séparaient des souvenirs et des devoirs de ma jeunesse envers une autre monarchie. Mon esprit avait grandi, mes idées s'étaient élargies. Mon cœur était libre d'engagement, mes devoirs étaient tous envers mon pays. J'ai fait ce que j'ai cru devoir faire pour sauver de grands malheurs et pour préparer de grandes voies au peuple. Je fais pour lui maintenant les mêmes vœux que je faisais il y a 30 ans pour une autre forme de souveraineté. Quant à ceux que j'adressais alors au ciel pour l'enfance du duc de Bordeaux, Dieu les a autrement exaucés. mais il les a mieux exaucés peut-être pour son bonheur dans l'exil que dans la patrie, dans la vie privée que sur un trône. Ce prince et son parti ont reconnu ma fidélité d'honneur à leur cause et à leur malheur par des procédés injurieux qui m'ont percé le cœur. Je leur rends à présent en indifférence ce qu'ils ont déversé sur moi en injures et en calomnies. 1860.